Eh bien, nous avons la chance d'avoir M. Brassard aujourd'hui, Jean-Michel Brassard, dont je me suis demandé comment vous le présenter. Parce que c'est quelqu'un de très sérieux, bourré de diplômes. Seulement, il ne se prend pas au sérieux. Alors, est-ce que je dois vous présenter comme étant quelqu'un de sérieux, comme un farceur? C'est pas tout à fait clair. Il est docteur en psychologie de l'Université catholique de Louvain. Et la psychologie, ça mène à tout, semble-t-il. Ça mène à étudier les ovnis. Vous savez, les soucoupes volantes. Vous avez entendu parler de ça, certainement. Il a fait une thèse de doctorat sur un problème assez particulier de même. Où est-ce que j'ai noté ça? Sa thèse de doctorat. Le modèle socio-psychologique du phénomène des ovnis. Il en présente un modèle socio-psychologique. Pour savoir quel est le modèle, il nous en parlera quand je le questionnerai tout à l'heure. Puis il s'empresse de détruire son discours ufologique. Je ne sais pas très bien pourquoi il est ufologique. Quand on commence avec les ovnis, on est en français. Et peut-être qu'on passe à l'anglais. Quand on est sérieusement psychologue, on publie des choses sérieuses, n'est-ce pas? Même si on tient à un scepticisme scientifique. Parmi ces ouvrages, je ne voudrais en citer qu'un seul. 60 questions étonnantes sur le paranormal. Un traumatisme augmente-t-il vos chances de devenir mystique? Vous pourrez réfléchir. Les enfants peuvent-ils avoir des marques de leur vie antérieure? Peut-on construire une maison hantée? Vous avez déjà certainement essayé. Les fakirs peuvent-ils vraiment soulever une corde dans l'air? Là, je suis complètement perdu, je vais vous demander. Les expériences de mort imminente sont-elles imaginaires? C'est un sérieux problème assez sérieux dont nous parlerons le 3 mars prochain. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le Japon et sa religiosité. Alors je crois que mieux c'est que je lui passe la parole. Tout grand merci d'être là et vous avez la parole.
Oui, donc. En gros, la présentation qu'il a fait est la présentation des choses dont je ne veux pas vous parler, ça c'est marrant. C'est la deuxième partie. Donc j'ai deux carrières différentes, c'est vrai. Donc j'ai aussi un autre livre là, qui s'appelle Pour en finir avec le paranormal qui vient de sortir pour faire ma pub. Mais on ne va pas discuter de ça. Mon autre carrière, c'est que je suis professeur de japonais. C'est pour ça qu'on m'a invité pour parler du Japon, évidemment. C'est-à-dire qu'en 2007, je suis parti, j'ai habité 5 ans au Japon. Et évidemment, forcément, comme ayant travaillé sur la psychologie de la religion, j'étais intéressé par d'explorer la question de la religiosité chez les Japonais, d'en apprendre plus sur le sujet. Et donc, c'est de ça que nous allons discuter. Ah, c'est mieux avec un micro. Test, ok. Est-ce que tu peux avancer le PowerPoint de 1 ? Voilà, donc il y a quelques années de ça, on m'avait demandé de parler du même sujet à un colloque organisé sur l'athéisme dans le monde. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi on m'avait demandé de parler de l'athéisme plutôt que de la religiosité. C'est qu'en fait, quand on fait un sondage au Japon, apparemment les Japonais sont extrêmement athées. Donc c'est un sondage Gallup, donc c'est un des instituts de sondage les plus célèbres au monde. Et donc ils ont fait un sondage en 2012. Et on voit que, si on regarde les chiffres, le Japonais est le deuxième pays le plus athée au monde. Donc le pays le plus athée au monde, c'est la Chine, puis le Japon, et puis on arrive en quatrième position avec la France. Et donc, vous voyez les résultats qu'on obtient, c'est qu'on a 16% de personnes qui se disent religieuses, 31 personnes qui se disent sans religion, 31% d'athées convaincus et 23% qui dit n'a pas de réponse. Et donc, évidemment, quand je vois ces chiffres, c'est un peu bizarre, ça paraît un peu bizarre parce que ça doit détonner avec votre image que vous avez du Japon où on voit les temples, le bouddhisme, les temples, le shintoïsme, la religion japonaise. Et on se dit, mais vraiment, le Japon est un pays aussi athée que ça alors qu'on voit que les gens sont actifs, hein, vont dans les temples, font des prières, etc. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que ça pose le problème de comment on pose des questions dans un questionnaire. et même du mot athée. Hein. En fait, finalement, les Japonais, ils comprennent pas très bien le mot athée. Donc, quand on leur demande est-ce que vous êtes athée, ils comprennent pas très bien. Souvent, quand j'en ai discuté avec mes amis japonais, et que j'utilise le mot japonais qu'on utilise pour dire athéisme, ils savent pas très bien de quoi on parle. Ça ne veut pas dire grand-chose pour eux. Et l'autre problème qu'il y a, c'est que il y a la religion, une religion qui est typiquement japonaise, dont on va évidemment beaucoup parler, qui est le shintoïsme, la religion shinto, qui est originaire et qui n'existe pratiquement qu'au Japon, pour les raisons qu'on va voir. C'est une religion qui ne demande pas qu'on s'identifie comme pratiquant. Les gens ne se disent pas « Ah, je suis pratiquant du shintoïsme » ou « Je suis shintoïste », ça n'a pas de sens pour eux. En fait, pratiquer le shintoïsme, c'est être japonais. Et donc, ils ne se demandent pas s'ils sont japonais, donc... Mais si on leur demande est-ce que vous pratiquez le shintoïsme, ils vont pas. C'est une question qui n'a pas beaucoup de sens pour eux non plus. Hein. Faire les rites shintoïstes, faire les activités liées à la religion shinto, c'est juste être japonais. Forcément, quand on leur demande, on obtient des scores monstrueux d'athéisme au Japon qui ne reflètent pas vraiment la réalité. Et donc, juste pour vous donner une idée, un sondage NHK, donc c'est la chaîne de télévision japonaise, en 2008 donne qu'il y a à peu près 2,3% de chrétiens au Japon, pour des raisons historiques. Hein, il y a très peu de chrétiens au Japon, malgré qu'il y a énormément de missionnaires américains, évidemment. Les témoins de Jéhovah ont une très forte croissance au Japon, aussi pour des raisons historiques, parce qu'il y avait tellement peu de chrétiens qui font tellement d'évangélistes que ça leur a permis de faire beaucoup de croissance. Mais malgré tout, on est, tous les chiffres que j'ai vus pour les chrétiens au Japon, c'est entre 2 et 3% en général. Alors, le shintoïsme. Donc, le shintoïsme, c'est la religion originaire du Japon. Et donc, c'est une religion qui s'exporte très très mal, forcément. D'ailleurs, elle ne cherche pas à s'exporter. Elle fait très peu d'évangélisation. Pourquoi ? Parce que c'est une religion qui va expliquer l'origine du Japon. Donc, les dieux ont créé le Japon. Et ils sont au Japon, donc forcément, c'est très dur de dire, de convertir des gens à l'extérieur du Japon à cette religion-là. Au niveau de l'histoire, comment ça s'est passé ? Au 6e siècle après Jésus-Christ, le bouddhisme est arrivé au Japon, et l'écriture. Donc évidemment, avant ça, l'écriture arrive assez tardivement au Japon, au 6e siècle. Et c'est l'écriture chinoise qui est importante. Et à cette époque-là, le bouddhisme arrive aussi en même temps, en la même période. Et donc, avant l'arrivée de l'écriture et du bouddhisme en importation de Chine, il y a ce qu'on appelle un proto-shintoïsme. Alors, le shintoïsme, c'est évidemment un certain nombre de pratiques locales, et donc c'est une forme d'animisme. Hein. Donc, vous imaginez un peu comme les Indiens d'Amérique. Une façon dont j'aime bien expliquer ça, c'est de dire toutes les pierres n'ont pas une âme, mais certaines pierres ont une âme. Donc, les shintoïstes vont vénérer un arbre, ils vont mettre une corde autour pour dire que c'est un arbre qui est sacré, ou un rocher. Donc, au départ, c'est vraiment une forme d'animisme. On vénère, alors les entités qui vénèrent, ça s'appelle les kami. Et on traduit ça par Dieu ou esprit, mais c'est très difficilement traduisible, en fait. Les experts pensent qu'il ne faut pas traduire. Donc le bouddhisme arrive, et puis le bouddhisme et le shintoïsme vont coexister au Japon à partir de ce moment-là. Et ils vont assez bien s'entendre. Donc il ne va pas avoir de guerre de religion, des choses comme ça. En général, les monastères bouddhistes vont avoir un temple shintoïste et se construit à côté. Donc vous imaginez, il y aura un gros temple bouddhiste et puis un petit temple shintoïste. Ou inversement, il y aura un grand temple shintoïste et une chapelle bouddhique. Et les deux religions vont coexister jusqu'à l'époque contemporaine. Et la façon dont on va éviter les guerres de religion entre le shintoïsme et le bouddhisme, c'est simplement que les bouddhistes vont dire que les shintoïstes, ils vénèrent les kami. Mais les kami, c'est juste les dieux du bouddhisme, donc les bodhisattvas, etc. Mais expliquer pour le peuple qui ne comprend pas bien les vérités bouddhiques. Et les shintoïstes, ils vont juste dire nos kami à eux, nous. C'est les dieux du bouddhisme, mais les dieux du bouddhisme, c'est la version pour le peuple, mais nous, on donne. Donc, chacun réinterprète théologiquement l'autre religion comme étant la version populaire, et eux sont la vraie version. Mais, donc, les deux religions coexistent de manière assez. Sans trop de conflits. Et alors, évidemment, au 15e siècle, les chrétiens vont arriver, avec principalement les Portugais, au départ. qui vont faire énormément d'évangélisation. Et il va y avoir énormément de convertis au christianisme à cette époque-là, pendant environ un siècle. Mais malheureusement, le shogun de l'époque, donc le chef du pays, hein, le shogun, c'est-à-dire général, c'est le dirigeant du pays à ce moment-là, il va y voir une menace, il va penser que c'est peut-être une tentative pour envahir le pays, et donc il va interdire le christianisme. Hein. Et donc les chrétiens vont être persécutés au Japon à partir du XVIe siècle. On va les obliger, les chrétiens, à abjurer, donc ils vont devoir, on les fera marcher sur une croix ou cracher sur une croix, ou des choses comme ça. Si vous êtes intéressé par le sujet, il y a eu un film il y a 2 ans qui s'appelle Silence de Martin Scorsese, où on voit les persécutions des chrétiens au XVIe siècle. Et donc le christianisme est officiellement interdit au Japon jusqu'au XIXe siècle. Alors évidemment, il y a eu des chrétiens qui ont continué à pratiquer le christianisme de manière cachée, on les appelle les chrétiens cachés. Et c'est un phénomène assez fascinant puisqu'ils n'étaient plus en contact avec l'Occident et donc le christianisme qu'ils ont pratiqué s'est mis à fusionner avec le shintoïsme. Et donc ils pratiquent à l'heure actuelle, au 19e qu'on a découvert ces chrétiens cachés. On a pu voir par exemple leur iconographie, par exemple la Vierge Marie est représentée comme étant la déesse Amaterasu, donc une déesse shintoïste, etc. Les deux religions sont devenues un syncrétisme, ont fusionné. Et après ça, évidemment, au 19e siècle, le pays s'ouvre aux étrangers de nouveau, donc il a été fermé aux étrangers, le christianisme est de nouveau autorisé, mais c'est ce qui explique les très faibles pourcentages de chrétiens au Japon malgré tout. À partir du bon, même sur le 20e siècle, évidemment, maintenant le christianisme n'est plus interdit, mais voilà. À cause de cette raison historique, il y a beaucoup moins d'évangélisation au Japon. Très bien. Alors, la mythologie. La mythologie, c'est que, comme je l'ai dit, le shintoïsme, c'est un animisme, donc on croit dans certains. Le mont Fuji, par exemple, vous connaissez tous, c'est un kami, donc c'est un dieu du shintoïsme. Donc, c'est une c'est un volcan. Hein. Et un temple shinto, d'ailleurs c'est une propriété privée de l'église shintoïste, hein, donc c'est pas une propriété d'État, hein, c'est comme si vous alliez à Notre-Dame de Paris, hein, c'est le mont Fuji, c'est un sanctuaire shintoïste. Hein. Et donc ils ont ces croyances dans des animaux, des plantes ou des rochers, etc., qui seraient vivants. Mais ils ont aussi une mythologie qui ressemble à la mythologie gréco-romaine, donc vraiment avec des dieux qui aurait créé le Japon, etc. On va passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc ça, c'est le Kojiki. Donc c'est la chronique des choses anciennes. C'est un livre qui a été écrit au 6e siècle après Jésus-Christ et qui raconte, donc au début, hein, quand l'écriture arrive au Japon, à la même période, et qui raconte les grands mythes du Japon. Hein. Et donc, c'est la version que j'ai ici, évidemment. Et donc, c'est le Kojiki en manga. Hein. Donc, vous savez qu'au Japon, ils ont fait la Bible en manga, et donc, ils ont fait aussi le Kojiki en manga. Donc, ça serait l'équivalent de la Bible du Shintoïsme. Et ce livre-là va nous raconter différentes histoires. Donc, la première histoire, c'est les deux dieux qui se trouvent ici. C'est Izanami et Izanagi qui créent le Japon. Et comment est-ce qu'ils créent le Japon? Ils sont dans les nuages, ils vont prendre du lait, ils vont verser le lait dans la mer, et puis ils vont utiliser un bâton, et le bâton, on dit qu'il y a un verbe pour ça, c'est barater, ça veut dire qu'ils barattent, ça veut dire qu'ils font du fromage en tournant le bâton dans le lait, et c'est le fromage qui va créer les îles du Japon. Et c'est comme ça que ces deux dieux-là créent les îles du Japon. Bon, évidemment, c'est un symbole phallique. Et donc, ensuite, ça c'est la première génération de dieux. Donc on peut les voir un peu comme dans la mythologie grecque, la génération avec Cronos et Titan. Et puis il y a une deuxième génération de dieux. Il y aura la déesse Amaterasu et son frère Susanoo. Et donc Amaterasu est la déesse la plus importante dans le panthéon. C'est la déesse du soleil. C'est pour ça qu'on parle aussi du pays du soleil levant, etc. Et donc il y a deux grands mythes fondateurs dans cette religion. Le premier mythe, c'est que la déesse Amaterasu, c'est donc ils sont frères et sœurs, hein, Susanoo et Amaterasu. Donc Susanoo avait été donc Susanoo c'est le dieu de la tempête, hein, et donc c'est une brute, mais bon, évidemment c'est un gros quand même. Il se comporte pas toujours bien, et donc il a embêté sa sœur. Et donc la déesse Amaterasu rentre dans une grotte et se cache. Mais évidemment, si la déesse du soleil se cache dans une grotte, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de soleil, et donc le monde est plongé dans l'obscurité. Et donc les dieux shintoïstes sont très embêtés, ils veulent la faire sortir, mais elle refuse de sortir. Et donc ils vont développer des stratégies pour essayer de la faire sortir. La première stratégie qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont se mettre à danser et à jouer de la musique. Et évidemment, c'est un mythe qui raconte comment les dieux inventent la musique et la danse hein, pour essayer de sortir, faire sortir Amaterasu. Mais ça, elle est intéressée, elle est intriguée parce qu'elle entend, elle voit, mais elle ne sort pas. Et alors finalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, un des dieux va mettre un miroir devant la grotte. Et évidemment, Amaterasu va regarder à l'extérieur. Elle va voir pour la première fois le soleil puisqu'elle n'avait jamais vu son reflet. Et elle est tellement intriguée qu'elle sort de la grotte, et alors son frère Susanoo évite un rocher pour l'empêcher de ne pas rentrer. Donc c'est comme ça qu'on a le jour qui revient sur le Japon. L'autre grand mythe fondateur, c'est avec Susanoo tout seul. Et donc ça, c'est classique dans la mythologie, on a toujours un dieu qui doit taper sur un monstre pour ramener l'ordre dans le chaos. Par exemple, Hercule avec l'hydre de Lerne, etc. Dans toutes les mythologies, on trouve ça. Et donc Susanoo, c'est un dieu comme ça qui a une épée, le dieu de la tempête, un peu colérique. Et alors, un jour, il se promène sur les îles du Japon, il entend parler d'un monstre qui s'appelle Yamato Orochi. Et donc, c'est un gros monstre, un serpent avec 9 têtes et 9 queues. Et il décide d'aller le combattre, évidemment, parce que c'est ce qu'on fait quand on est un dieu. Et il développe une stratégie, donc il est malin. C'est qu'il va fabriquer du saké, donc de l'alcool japonais. Et il va faire 9 barils. Et donc, le monstre va sortir de la grotte où il se trouve, et les 9 têtes vont aller dans les barils de saké, vont boire le saké, et quand le monstre a bu trop d'alcool, Susanoo va le tuer. Hein. Et donc là, ça explique comment Susanoo a inventé l'alcool pour les Japonais, évidemment. Hein. Bon, tous des éléments importants dans la culture japonaise. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît les temples shintoïstes? Les temples shintoïstes, ils ont toujours un torii, comme ceci, c'est cette structure-là. Ça délimite l'entrée du temple. Donc, quand vous rentrez, c'est un portique, hein, évidemment, il n'y a pas de porte, hein, vous passez juste en dessous. Et ça vous permet de rentrer dans l'enceinte sacrée du temple. Hein, et ça a toujours cette forme-là. Ici il est un peu plus élaboré. Il y a des caractéristiques en fonction des temples, hein. Ça peut être juste une structure en béton assez moche, ou ça peut être, évidemment ici j'ai pris une photo d'un torii assez joli, qui est rouge parce que c'est un sanctuaire qui est dédié aux kitsune, qui sont des renards magiques. Donc il y a des renards au Japon, mais les Japonais, dans le shintoïsme, dans le folklore, ils pensent qu'il y a des renards qui sont des change-formes, qui peuvent se transformer en êtres humains. Et il y a des sanctuaires où on les vénère, donc leur donner à manger. Ils aiment manger du tofu grillé. Donc on leur apporte du tofu grillé et on l'offre au sanctuaire pour que les renards magiques viennent les manger. Je ne sais pas si c'est des renards physiques qui viennent les manger ou pas, mais en fait, c'est comme ça la pratique. Il y a aussi, si vous avez, j'ai pas mis l'image, mais vous avez certainement vu des temples c'est très célèbres à Kyoto, etc., où il y a plusieurs torii qui se suivent, et ça fait une longue file, ça vous dit quelque chose. Ça, c'est aussi un type de torii bien spécifique dans un. C'est relativement rare finalement au Japon, ce qu'on voit des photos, c'est toujours celui de Kyoto, mais là, il y en a un certain nombre quand même dans tout le territoire, et donc ça, c'est un type de sanctuaire bien spécifique, hein, c'est le sanctuaire inari. Mais voilà. Donc, en fonction de quelle branche du shintoïsme on se trouve et de quel dieu est vénéré. Mais la forme la plus basique, c'est normalement, c'est juste un torii comme ça, qui se délimite à l'entrée. Et alors, on rentre dans l'enceinte du temple, et on a un chemin à parcourir jusqu'au temple, et là, il va y avoir de la nature, parce qu'évidemment, on vénère la nature. Et quand on arrive au temple, là, on va devoir faire. On va se purifier. Donc, les rites de purification sont très importants dans la culture japonaise. Que ce soit dans le shintoïsme ou le bouddhisme, la pureté, on va devoir se laver la bouche, se purifier, ou bien on peut le faire à l'encens, ça va dépendre du temps. Et puis on ira faire une prière, et faire une prière devant. Alors on ne rentre pas dans le temple, on reste à l'extérieur, et on doit juste qu'on claque dans les mains. Donc on rentre pas, donc on reste à l'extérieur du bâtiment lui-même, parce que dans le bâtiment lui-même, dans le shintoïsme, à l'arrière du bâtiment, on ne peut pas voir mais il y a un objet sacré que seul le prêtre peut voir, donc qui est généralement une épée ou un miroir, ce sont normalement des objets qui sont liés au mythe dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais donc les pratiquants, ils font le parcours depuis le tori jusqu'au sanctuaire, et puis ils font une prière à l'entrée du temple, ils restent à l'entrée du bâtiment, ils font la prière là. Et donc si vous imaginez, en fait, il y a aussi, puisqu'on est dans des rites, on est dans une religion animiste, donc il y a des aspects sexuels à toutes ces pratiques. Et donc, en fait, le tori, si vous regardez, le temple en lui-même, c'est l'utérus. Hein. Et donc, le chemin jusqu'au temple, évidemment, c'est la voie jusqu'à l'utérus. Et le tori, c'est l'entrée de l'utérus. Enfin, l'entrée, voilà. Je ne vais pas faire un dessin, mais. Très bien. Oui, image suivante. Voilà, et donc il y a des festivals au Japon, on appelle ça des matsuri, où les Japonais vont sortir les objets magiques qui sont à l'intérieur du sanctuaire, et on va les mettre dans des omikoshi, donc c'est ce que vous voyez sur l'image. Il n'y a pas vraiment de traduction idéale en français, on pourrait appeler ça une chasse comme chez les catholiques. Hein. En tout cas, c'est une procession où on sort l'objet magique, on le promène dans la rue, et donc il y a des hommes de la ville ou du village qui vont porter ça en disant yo-isho, yo-isho. Et généralement, ça se fait en été quand il fait 40 degrés, donc c'est assez sportif. Les pompiers doivent les arroser de temps en temps, donc ils ne tombent pas dans les pommes, parce que ce n'est pas léger, évidemment. Ici, oui, sur l'image que j'ai, c'est juste une photo que j'ai de l'été dernier, donc là, ils sont en train de tirer sur des coffres, mais parfois, on les soulève plutôt, donc... Il y a toutes sortes de structures qui sont comme ça exhibées dans les festivals. Voilà, et ça, c'est des pièces de... C'est un art théâtral qui est utilisé, qui a été remis à la mode récemment, qui avait tendance à disparaître. Et donc, comme je l'ai expliqué, lorsque la déesse Amaterasu était cachée dans sa grotte, les dieux ont inventé la danse. Et donc, une pratique religieuse qui se fait, c'est de danser avec les taiko, là, c'est le grand tambour, hein, mais donc c'est muet. Hein, il y a juste des tambours qui martèlent à un rythme effréné, et puis il y a des danseurs qui sont masqués, qui jouent les différentes scènes du Kojiki. Et ici, je l'ai mis parce que c'est la scène, en fait, là, c'est l'acteur qui joue Susano, et ici, on a en fait une immense structure en toile, mais en fait, c'est le Yamato Orochi, c'est le serpent géant que Susano combat, et donc c'est un spectacle, enfin la séquence du combat dure une demi-heure, mais donc il fait une danse rituelle où il termine par tuer le serpent, et donc ça, c'était une prestation à voir. C'est pas... Après, ce que les Japonais, voilà, ils croient ou pas, c'est difficile à dire, c'est un spectacle qu'on va voir, parce que c'est un spectacle qui est fun à voir, où on représente. Et d'ailleurs, ça avait tendance à disparaître, la jeune génération aime bien maintenant, parce que voilà, c'est un peu comme du théâtre no ou du kabuki, c'est une forme de spectacle religieux. Et alors, la dernière chose que je dois vous dire sur la religion Shinto, et puis après on passera au bouddhisme, qui est, comme vous l'avez compris, la deuxième plus grande religion du Japon, c'est que l'empereur est le descendant direct de la déesse Amaterasu. Ça, c'est quelque chose de super important. Il y a le livre dont je vous ai montré la couverture, le Kojiki, le traité des choses anciennes. Il établit que Amaterasu a eu des demi-dieux, des enfants qui étaient des demi-dieux. Et puis, à un certain moment, de ces demi-dieux est né le premier empereur, Jinmu. Et donc, il est devenu le premier empereur. Et à l'heure actuelle, la lignée japonaise est ininterrompue. Donc, ça veut dire que l'empereur du Japon est un descendant direct de la déesse Amaterasu. Il n'est pas un demi-dieu, il est un centième de dieu, je ne sais pas combien de générations on est supposé avoir, mais il est très très loin. Alors, peut-être que vous avez entendu la fameuse histoire après la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains ont envoyé donc les bombes atomiques, hein, vous connaissez l'histoire. Une des concessions qu'a dû faire l'empereur, les Américains, au départ, évidemment, il y a plus à peur, avec très peur, très très peur. Très peur qu'on le pend simplement, parce qu'on a pendu les généraux. Hein. Bon, on va pas rentrer dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais évidemment, les Américains ont décidé de ne pas tuer l'empereur pour crime de guerre, parce qu'ils se sont rendus compte que ce serait plus facile de contrôler les Japonais s'ils ne le faisaient pas, malgré qu'il est. Ce serait sa tête. Enfin, le rôle qu'a joué l'empereur dans la Seconde Guerre mondiale est complexe, évidemment. Mais bon, la guerre c'était en son nom, et visiblement il ne s'est pas opposé à la guerre, donc il était quand même relativement coupable, évidemment. Mais donc, au lieu de le tuer, de le pendre pour crime de guerre, comme ils ont fait avec les généraux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont demandé de faire une déclaration qui est assez célèbre, une déclaration à la radio, où il a affirmé ne pas être un demi-dieu. Et donc les Américains, après ça, évidemment, ils ont dit, vous voyez, l'empereur japonais a reconnu qu'il était un être humain comme les autres. Le problème, c'est qu'il y a une astuce là-dedans, le vocabulaire qu'a utilisé l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur a utilisé un terme, en fait, il y a des termes techniques, évidemment, qui désignent les choses. Et en gros, le terme qu'a utilisé l'empereur du Japon, c'est une façon de dire qu'il n'était pas un dieu incarné. Donc, en fait, c'est un terme qui s'appliquerait plutôt à Jésus. Donc, qui serait que Jésus serait une manifestation de Dieu sur terre. Et donc, l'empereur a utilisé ce terme-là, mais évidemment, l'empereur n'a jamais prétendu être ça. Personne ne croit que l'empereur est ça au Japon. L'empereur n'est pas comme un Jésus au Japon. Il est un descendant très dilué du Japon. Donc, en fait, ils ont contourné le problème en utilisant un terme incorrect. Et comme ça, les Américains ont pu dire, dans les médias japonais, ils ont pu dire, parce que dans quelle mesure est-ce qu'ils ont trompé les Américains? Je pense que les Américains avaient quand même quelques experts en japonais qui se rendaient bien compte. Mais d'un point de vue médiatique, en fait, tout le monde était gagnant. C'est-à-dire que les Américains ont pu dire, vous voyez, l'empereur, il a renoncé à sa divinité, et les Japonais, ils font, oui, il a dit qu'il n'était pas un truc que personne ne pensait qu'il était, donc... ça marche pas, tout le monde est gagnant dans le processus.
Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie.
Voilà, on peut passer à l'image suivante. Alors le bouddhisme. Le bouddhisme au Japon, c'est très différent que l'image que vous en avez certainement. En fait, dans chacun des pays du monde, le bouddhisme s'exporte évidemment d'un pays à l'autre. Hein. Entre autres, évidemment, on parle de la grande migration du bouddhisme en Asie. Donc ça commence en Inde, et puis ça passe par la Chine, puis la Corée, puis ça arrive au Japon. Dans chaque pays, évidemment, le bouddhisme s'est adapté. Alors le bouddhisme qu'on nous présente en Occident, généralement il nous est présenté sous une forme très philosophique, du stoïcisme. On insiste sur la philosophie du Bouddha historique, mais on n'insiste pas tellement sur les aspects religieux. Et donc, chaque pays adopte le bouddhisme d'une manière différente. Et donc, le bouddhisme au Japon, il est très différent de ce que vous pouvez imaginer, parce qu'en fait, c'est le culte des ancêtres. Alors là, c'est probablement, si on fait un sondage dans la rue et qu'on vous demande c'est quoi le bouddhisme, c'est probablement la dernière chose que les gens vont dire, s'ils ne le disent jamais. C'est-à-dire qu'au Japon, on dit qu'on se marie shintoïste, et qu'on se fait enterrer bouddhiste. D'ailleurs, ils pratiquent les deux religions. D'ailleurs, on dit que les Japonais sont shinto-bouddhistes. Ils pratiquent les deux en même temps. Et donc, le bouddhisme, c'est là que vous allez avoir les contacts pour les enterrements de vos proches. Et donc, il y a chaque temple va avoir des familles qui sont affiliées. Et c'est eux qui feront les rites de l'enterrement. Et donc, les Japonais pensent que les esprits des morts, non seulement... ils restent présents... surtout, bon, évidemment, si les fantômes, s'ils ont eu un problème dans la vie, hein, s'ils sont en colère, ils restent. S'ils ne sont pas en colère, ils peuvent passer dans l'autre monde, mais parfois ils vont revenir, particulièrement pendant une période qui s'appelle Obon, et donc qui est l'équivalent un peu de notre Toussaint, qui est une fête qui se déroule au mois d'août au Japon. Et donc là, pendant la période d'Obon, les Japonais ont l'impression que leurs proches reviennent, sont vraiment physiquement là, dans la maison. Et donc les moines bouddhistes font des rites qui visent à apaiser les esprits. Et donc il y a toute une série de rites, non seulement au moment de l'enterrement, mais il y a des cycles, donc tous les 3 ans, 6 ans, 9 ans, etc., après l'enterrement, le moine bouddhiste, on va le refaire revenir à la maison, et il va faire une prière pour s'assurer que justement l'esprit est apaisé, qu'il n'y a pas de problème. Donc évidemment, c'est assez étonnant, je suis sûr que vous n'imaginez pas que je le dise, enfin, ça n'a probablement rien à voir avec ce que vous pensez du bouddhisme, mais c'est ça le bouddhisme au Japon. Toutes les familles ont ce que j'ai mis sur l'image, ça s'appelle un butsudan pas toutes les familles, évidemment. Il y a des familles qui sont plus pratiquantes que d'autres, et puis voilà, il y a quand même un phénomène de sécularisation au Japon, donc évidemment, il y en a qui n'en ont plus. Et aussi, un des trucs importants avec le Butsudan, c'est que ça passe de fils aîné en fils aîné. Donc évidemment, si vous n'êtes pas le fils aîné, vous n'avez pas le Butsudan de la famille. Hein. Et donc le Butsudan, c'est un hôtel bouddhiste que vous avez dans votre maison, et que vous, qui représente votre contact avec l'esprit des personnes décédées dans votre famille. Et donc parfois, ici, il n'y en avait pas évidemment, mais parfois vous aurez une photo, ou à proximité, sur le mur, on va mettre des photos des proches. Et donc les bouddhistes, enfin les japonais qui pratiquent le bouddhisme, le shinto bouddhisme, ils vont aller tous les jours, par exemple, clapper des mains, ou enfin, faire une prière plutôt. Le clapage des mains, c'est plus typique du shintoïsme. Dans le bouddhisme, normalement, on joint juste les mains, comme dans le christianisme. Mais ils vont faire une prière aux esprits des morts. Et donc, vous voyez aussi, des choses typiques, c'est qu'ils mettent ce genre de feuillage. Donc, nous, à la Toussaint, on met plutôt des chrysanthèmes, et eux, ils mettent ce genre de feuillage sur les tombes. Et alors, un des aspects les plus importants, c'est qu'ils vont donner de la nourriture aux morts. Donc ils vont prendre un bol de riz par exemple, et puis ils vont le déposer. Donc vous préparez le riz pour leur plat familial, et vous faites un bol de riz que vous mettez au bout de Soudan, comme si la famille allait, enfin les personnes décédées de la famille allaient manger avec vous. Et donc on peut mettre de l'alcool, je suppose que les gouttes de personnes décédées influencent ce que vous mettez aussi. Et même dans les cimetières japonais, on apporte de la nourriture aux tombes, c'est assez particulier. On donne de l'alcool, on met des bouteilles d'alcool devant la tombe de la personne décédée, ce qui fait le plus grand bonheur des sans-abri japonais qui peuvent aller se restaurer au cimetière si nécessaire. Non, c'est pas tout le temps évidemment, mais ça peut être. En tout cas, ils vont pas aller visiter la tombe. Ben, ça dépend à quel point, évidemment, ils sont croyants et pratiquants. Mais s'ils vont à la Butsudan, évidemment, le Butsudan évite, donc cet hôtel évite de devoir faire un déplacement physique jusqu'à la tombe, puisqu'on peut déposer la nourriture à la place.
Ok. Alors, évidemment, il y a des nouveaux mouvements religieux, ou des sectes, hein, on va dire des nouveaux mouvements religieux. J'ai pris les trois plus célèbres. La première, évidemment, c'est la secte Aum Shinrikyo, qui est la fameuse secte qui a fait une attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, qui a fait 13 morts, si vous au moins, et 6000 blessés, un truc comme ça. Donc c'était quand même une grande attaque. Bon, la secte a été... c'était une secte apocalyptique, ils voulaient accélérer la vie de l'apocalypse. Et ils ont été arrêtés, évidemment, et le gouvernement a attaqué leur base, leur centre. Ils ont trouvé énormément, ils essayaient de développer des armes bactériologiques, etc. Heureusement, ils n'étaient pas super efficaces. Mais... Donc, par exemple, pour l'attaque sarin, on pense qu'il n'y a eu que 6 morts que parce que le produit n'était pas assez bien purifié, etc. Mais donc, voilà, ça c'était une des sectes les plus célèbres, je pense que vous en avez tous entendu parler. Surtout que, il y a un mois ou deux, les dirigeants de la secte ont été pendus. Donc la peine de mort existe toujours au Japon, et ils avaient encore une dizaine de chefs de la secte, qui étaient en prison à cause de l'attaque sarin, évidemment à vie, mais enfin ils étaient dans le couloir de la mort. Et donc très prochainement, il y a une nouveauté, c'est que l'empereur japonais va abdiquer. Le gouvernement a autorisé son abdication, et donc on pense qu'ils ont décidé de finir le problème d'Aum en exécutant la mise à mort avant le passage au nouvel empereur, pour que son successeur n'ait pas, son fils de toute façon, n'ait pas à se préoccuper de la chose. Alors l'autre mouvement religieux, c'est la Soka Gakkai. Alors, la Soka Gakkai, c'est une orientation bouddhiste. Et donc, ça, c'est un très important au Japon, extrêmement important au Japon, et qui a énormément d'influence politique et économique. Et donc, le Japon a des difficultés avec la problématique des pots de vin, parce que le Japon, c'est un pays des petits cadeaux, hein, c'est un pays des petits cadeaux. Et donc, si vous allez voir un homme politique, bah, c'est... comme vous feriez quand vous allez voir votre voisin, vous lui amenez un cadeau. Mais si vous lui amenez des cadeaux du genre un abonnement, un club de golf à 1000 euros, est-ce que c'est un cadeau, est-ce que c'est un pot de vin, ça devient vite, la barrière devient très vite floue. Et donc la Sokagakka est un rôle politique, c'est vraiment quelque chose de très influent d'un point de vue économique. Et ils sont arrivés en France il y a un certain temps et ils ont été mis par la MIVILDU, comme vous savez, le comité pour l'évaluation des sectes, comme étant une secte. Mais ça a été retiré. Et donc la raison, c'était le manque de transparence au niveau financier, puisque évidemment la branche française de la Sokagakka reçoit de l'argent, et comme je l'ai expliqué, c'est un groupe religieux qui a énormément d'argent. Ça a été retiré, elle a été officiellement retirée des listes des sectes dangereuses en France, simplement parce qu'ils ont accepté qu'on fasse un audit et qu'on vérifie qu'il n'y avait pas de mauvaises transactions financières. Et c'est avéré qu'ils ne faisaient pas de. Qu'ils payaient bien leurs impôts, etc., et qu'il n'y avait pas de problème financier, et donc on l'a retiré de la liste. Mais c'est pour ça qu'elle est assez connue, elle existe aussi en Belgique. Et sinon, en fait, c'est une branche du bouddhisme assez classique. Hein. Donc Nichiren est un des grands réformateurs du bouddhisme japonais, au XIIIe siècle. Hein. Parler Nichiren pour le bouddhisme, c'est un peu comme dire Luther ou Calvin, hein, c'est un réformateur. Il a changé la pratique du bouddhisme au Japon au XIIIe siècle. Et donc, je veux dire, c'est un bouddhisme d'orientation Nichiren, ça n'a rien de bien particulier, hein, c'est assez classique. La version Nichiren du bouddhisme est une des versions les plus populaires au Japon. Donc, mis à part cette influence politique et financière, ils pratiquent un bouddhisme assez standard pour des Japonais. Et la troisième religion, donc ça a peut-être entendu en Belgique, c'est Omotokyo, donc Omoto. Omoto, ça c'est un des mouvements les plus étonnant du Japon. Donc la Deguchi Noa, qui est la fondatrice du mouvement, en fait, un jour c'était quelqu'un de pas très éduqué, mais elle s'est retrouvée possédée par un kami, donc le dieu, et elle s'est mise à parler par ça. Donc elle s'est possédée par le dieu, et ça a été le début de cette religion. Et donc là, c'est plutôt une variante du shintoïsme. Donc eux, ils pensent que donc la déesse Amaterasu et les autres dieux dont j'ai parlé, Susanoo, c'est donc la troisième génération de dieux. Ils ont été très fort mobilisés par le gouvernement à la fin du 19e, parce qu'évidemment c'était important de dire que l'empereur était le descendant d'Amaterasu pour justifier la position de l'empereur au 19e siècle. Hein. Et c'est ce qui a amené à la Seconde Guerre mondiale. Et ça, on parle du shintoïsme d'État. Donc ce qui a amené à la Seconde Guerre mondiale, ça a été vers la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement japonais a essayé de manipuler le shintoïsme, a essayé de le transformer pour affermir le pouvoir de l'empereur, et en insistant sur le fait que l'État est un milieu, enfin voilà, un sentier de Dieu. Et surtout, bon, de manière très stratégique, le gouvernement finançait les temples dédiés à Amaterasu, sous-finançait tous les autres temples, et il mettait des bâtons dans les roues dans tous les temples bouddhistes pour limiter l'expansion du bouddhisme. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle dans la littérature le shintoïsme d'État. C'est la forme manipulée du shintoïsme. Et en fait, la secte Omotokyo, elle s'est rebellée contre ça. Elle a dit on va revenir à un shintoïsme plus originel. Et donc, eux, ils mettent l'accent sur les dieux antécédents, donc la génération avant dans la théogonie. Donc, Izanami, Izanagi, ceux qui ont créé le Japon. Et ils disent que la génération de dieux de Amaterasu, de Susanoo, c'est pas la bonne qu'il faudrait aider, c'est pas les meilleurs. Évidemment, le gouvernement japonais, surtout que la secte est née au début du XXe siècle, donc au moment justement où le gouvernement essayait de manipuler le shintoïsme, ils n'étaient vraiment pas fort contents du développement de cette secte. Et ils ont mis plusieurs fois son leader religieux donc, en prison, etc. Donc la secte a été extrêmement opprimée par le gouvernement, parce que ce qu'ils disaient était exactement l'opposé de ce qu'ils essayaient de faire pour manipuler le shintoïsme. Mais évidemment, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains ont imposé une nouvelle constitution au Japon et ont donc imposé aussi une stricte séparation de l'Église et de l'État, tout ça a disparu. Et maintenant, évidemment, le Omotokyo a pu se développer. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que ça, probablement, vous n'en avez jamais entendu parler. Mais sauf si vous faites de l'aïkido, évidemment. puisque le fondateur de l'aïkido, Ueshiba, était un mystique. Hein, donc il avait... Vous voyez, l'aïkido, c'est un art martial qu'on fait dans les clubs de sport ici, hein, qui est assez populaire, un peu le judo et le karaté. Mais donc, Ueshiba, c'était un mystique. Hein, il avait fait des... quelque chose dont je n'aurais pas le temps de parler, mais Shugenja, donc c'est les pratiques ascétiques dans les montagnes, dans sa jeunesse, et il allait se faire dans la montagne, il faisait des périodes de jeûne, etc., avant de commencer les arts martiaux. Et puis à un moment, il a rencontré un prof d'arts martiaux, il est devenu il a pris son enseignement, donc ça c'est, mais à la même période, il s'est converti à la secte Omotokyo. Et donc, les pratiques d'aïkido sont extrêmement influencées par les croyances religieuses de type Omoto. Évidemment, les pratiquants d'aïkido belge n'en pensent généralement absolument rien, la pratique de l'aïkido n'est pas une pratique qui a été conçue pour faire de la self-défense, pour se défendre dans la rue, c'est une pratique qui a été imaginée pour Ueshiba comme une pratique mystique pour mobiliser et transmettre par le mouvement les idées spirituelles de la religion Omotokyo.
La dernière chose que je devais vous dire, et je suis exactement dans les temps,
c'est que il y a évidemment le confucianisme. On demande souvent pour le confucianisme qui vient de Chine, hein, avec Confucius. Ben, le confucianisme, j'ai un peu du mal toujours en parler dans ça, parce que c'est vrai qu'on on le catégorise parfois comme une religion, mais le confucianisme, c'est plus une philosophie. Hein. Donc Confucius a écrit sur comment organiser les états, il y avait des idées sur le fait que les enfants devaient le respect à leurs parents, que les parents devaient le respect à l'empereur. Et donc c'est plutôt une philosophie politique, hein, et c'est sur l'ordre social. Bon, après qu'on soit d'accord avec ce pas ça c'est un autre problème. Donc c'est vraiment un truc, pour moi c'est plus un philosophe. Et alors évidemment, le confucianisme à l'heure actuelle est évidemment très important au Japon en tant que philosophie qui a forgé la société japonaise. Donc la manière dont on enseigne, la manière dont par exemple, donc un emploi, quand le fait que les Japonais travaillent énormément, etc., tout ça a été renforcé par la philosophie confucienne qui dit évidemment qu'on est des rouages dans l'État finalement. Mais donc, le confucianisme est une philosophie qui a eu un rôle très important pour structurer la culture japonaise, et c'est une philosophie qui est aussi enseignée à l'école au Japon, en primaire, etc. On a les enfants, ils ont un cours d'éthique, hein, pas comme un cours de religion chez nous, mais ils n'ont pas le cours divisé en 10 disciplines. Hein. Évidemment, qu'est-ce qu'ils font en ce cours? Ils vont visiter un temple Shinto et puis ils apprennent des textes de Confucius. Et donc, évidemment, le confucianisme influence énormément la manière de penser des Japonais, mais ce n'est pas vraiment une religion au sens classique du terme, c'est plutôt une philosophie selon moi. Et voilà, c'était tout.
Nous avons besoin de vous pour le scepticisme. Vous êtes un fan du podcast, vous aimez le travail que nous réalisons, vous voulez nous soutenir, vous voulez vous assurer du fait que le programme continue, vous voulez nous aider avec les différents frais liés à la réalisation de ce podcast. Dans ce cas, nous vous invitons à devenir un de nos mécènes sur Patreon. Le site patreon.com permet de devenir un mécène de notre podcast à partir de 1$ par mois.
Don't believe in heaven. I know that there's no hell. don't think you've gone anywhere. I guess that's just as well, 'cause I want to remember the last look in your eye. It was the best and worst thing to get to say goodbye to you. They say we're not supposed to comprehend, but I wanna know more, being there with you at the end was a pain I'd hoped for. Did you know where you were going? Did you like the time you'd spent? I wish that you'd stayed longer, but that's not how it went. Now I know there's no forever, but of all the hearts I've met, I think the place we ended up was as close as one could get to Jim. They say we're not supposed to understand, but that doesn't help me watching you leave by my own hand. Cards that were dealt me, some would blame the dealer, some would blame the deal, some would make up stories that never could be real. I think when you left, you were glad to be back home. I think that you knew you would never be alone. I've no need for heaven or some eternal bluff. I prefer what's real, and what we had here's gotta be enough. I'm glad I get to miss you, but that you can never miss me. Thinking you'll wake up and see us is your eternity. It's a small comfort. I miss.